Just do it! Don't let your dreams be dreams.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, le podcast d'inspiration sur les projets et les expériences, mais surtout ceux et celles qui les font. Et ce soir, je n'ai pas un, mais deux invités, même une. Et un invité, je vais laisser se présenter. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là?
Ben, merci de nous recevoir. Déjà, c'est cool. C'est une première expérience pour nous de podcast. Donc, moi, je m'appelle Christophe. Donc, j'ai 30 ans. Je suis passionné par pas mal la nature. Donc, j'aime beaucoup faire du sport, notamment dans la nature, comme de l'escalade, de la montagne en randonnée. J'aime le ski de fond aussi. Et voilà, parmi mes expériences, je suis parti avec Fanny, ma copine, pendant 14 mois en voyage en Amérique du Sud. Et Fanny, je te laisse prendre la suite pour te présenter.
Vous avez compris, moi je m'appelle Fanny. J'ai 30 ans aussi. Avec Christophe, du coup, on est en couple depuis maintenant presque 11 ans. Tout de même.
Félicitations.
Et bah, pour me présenter rapidement, moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien la randonnée, le yoga, et puis bah, évidemment les voyages. C'est pour ça qu'on a décidé de partir tous les deux faire cette aventure.
C'est exactement ça. Et vous ne nous avez pas parlé, vous avez un métier aussi, tous les deux, qui, on verra plus tard, qui va avoir des impacts aussi sur ce voyage. Et ça a même des impacts aussi pourquoi vous avez fait ce voyage.
C'est ça, ouais. Moi, j'ai fait des études en biologie, donc une école d'ingénieur en biologie, et j'ai eu une première expérience, j'ai eu deux expériences très différentes. Une première expérience en recherche contre le cancer pendant à peu près 2 ans. Okay. Et ensuite, ça manquait un peu de concret pour moi. Okay. Et du coup, j'ai bifurqué sur un poste de management en production, donc dans une boîte qui fabrique des prothèses orthopédiques.
Ok. Alors, on reste dans l'univers médical quand même.
On reste dans l'univers médical.
D'accord.
Et moi, du coup, en fait, on s'est rencontrés à l'UT, donc aussi des études de biologie.
Ok.
Dans les choses que j'aime bien la bouffe.
C'est vrai.
Et ça a guidé un peu moi aussi mon parcours pro, parce que du coup, j'ai fait des études d'agroalimentaire. Ouais. Et donc, j'ai fait aussi une école d'ingénieur. Et derrière, un poste dans le management de production aussi. Donc
d'accord.
Moi j'ai fait en fait ce poste-là pendant 5 ans en changeant petit à petit de d'atelier, en changeant en prenant de responsabilités plus ou moins au fur et à mesure du parcours, mais aussi dans le management de prod et dans l'industrie. Chose qui va avoir un impact sur l'arrivée de notre voyage, voilà.
Justement, l'origine, l'envie de voyage. On va parler déjà peut-être de vos enfances respectives et de votre famille, parce que ça a eu un impact aussi, je suppose, sur ses envies de voyage.
Ouais, famille, je pense tous les deux, mais moi j'ai beaucoup voyagé avec mes parents en étant jeune, que ce soit beaucoup en France, même principalement en France, un petit peu en Europe et un peu dans des pays hors UE, on va dire.
Okay.
Et du coup, bah, déjà ça m'a donné quand même le goût du voyage, la découverte des petites.
Et moi, c'est pareil avec aussi l'exemple de mes sœurs. Donc, j'ai 2 sœurs qui sont jumelles et qui ont 9 ans et demi de plus que moi.
Okay.
Et en fait, elles ont fait leurs études à l'étranger, une en Australie, une en Autriche. Donc déjà, j'avais cet exemple d'expérience à l'étranger de plusieurs mois. Donc, ça a démystifié déjà des choses. En plus, avec mes parents, on est allé les voir. Donc, j'ai déjà voyagé à l'étranger avec eux. On a fait plusieurs autres voyages, plutôt dans des chambres, dans des familles qui font de l'accueil, quoi. Donc, on avait un échange avec les locaux dans les pays qu'on a pu visiter. Donc, tout ça, c'était des bons souvenirs. Ça m'a donné envie. Et ça m'a donné aussi, ça a démystifié un peu le côté, c'est compliqué de voyager à l'étranger.
Ouais.
Pour moi, c'était accessible.
Ouais. Ça a enlevé certains freins et certaines peurs.
Et c'est peut-être ça qui a aussi impacté sur le fait qu'un peu plus tard, pendant nos études, donc à l'UT, on est parti en stage en Angleterre, tous les deux, à Nottingham. Okay. Donc, c'était un stage de 4 mois là-bas. Et c'est Chris qui m'a vachement poussé à partir parce que moi, j'étais plutôt dans des doutes. Oh, je sais pas parler la langue, je sais pas comment ça fonctionne, etc. Et je pense que le fait qu'il ait déjà démystifié ça un peu avant, j'ai dit, ah non, go, on y va, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et
mais t'avais quand même des envies d'ailleurs ou...
Ouais, je pense que j'avais des envies, mais seul, j'avais pas forcément le courage de me lancer.
Le côté couple, ça te rassurait quand même.
Ouais, le côté de partir avec quelqu'un, d'avoir un appui proche, quoi.
D'accord.
Et c'est vrai que du coup, pendant les études, on a eu la chance aussi de partir à l'étranger ensemble, Fanny et moi, en Angleterre, Après, on est parti chacun de notre côté pendant les études d'ingénieur.
La mouche que vous avez déjà piquée, là, on était déjà foutu.
Le virus était pris, là, déjà.
En Suède, c'est ça, non?
Moi, je suis parti en Suède quelques mois.
Toi, et moi, j'étais à Vancouver, au Canada.
Ok, okay, ouais, vraiment. Et toute seule, cette fois-ci?
Cette fois-ci, toute seule, pas en couple, mais avec il y avait d'autres personnes de ma promo qui étaient là aussi, donc j'étais pas non plus seule, plongée dans l'inconnu.
Solo, solo, ok. Et donc, vous avez eu ce goût du voyage tous les deux, et là, il y a eu le déclenchement. Ce qu'on peut dire, c'est un trek, peut-être, en France, pas métropolitaine, du coup. Ouais.
En fait, on avait cette appétence du voyage et on avait un peu ce rêve d'un jour partir faire un voyage long. Donc, c'est un truc de longue durée, quand même, qui était dans un coin de la tête, mais on l'avait pas forcément développé ou projeté, voilà. Et en fait, on s'est lancé dans la vie professionnelle. On a commencé un peu à devoir faire des choix, réfléchir. Donc à chercher un peu un sens. Et de fil en aiguille, donc toi Fanny, c'est vrai que t'as été déjà amenée à partir dans une direction et à changer à travers ton premier boulot, je trouve.
Oui, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que le premier boulot, ça manquait du côté concret pour moi, je m'y retrouvais pas forcément là-dedans. Donc déjà de réfléchir une première fois à une orientation un peu nouvelle qui m'a amenée en tant que manager de prod.
Et au bout d'un moment, en fait... on a fini tous les deux par prendre ce poste de manager et on a été pris avec de plus en plus de responsabilités et avec ce constat qu'on avait l'impression de partir dans une vie un peu à 100 à l'heure où le travail commençait à prendre une place vraiment de plus en plus grande et où on se retrouvait pas forcément, ça nous générait beaucoup de stress, on n'avait pas forcément la sensation d'être en maîtrise, on était toujours en attente du week-end. Ça, c'était un truc qui nous a fait réaliser un peu qu'il y avait quelque chose qui était bizarre quand même dans les choix qu'on était en train de faire.
Et la fin de week-end, un peu difficile du coup.
Voilà, le dimanche soir, le blues du dimanche soir. Puis les vacances, pareil. Et on mettait toujours beaucoup de temps à retrouver, quand on était en vacances, notre vraie personnalité, entre guillemets.
Okay.
Et ça nous conduit à quelques éléments déclencheurs qui nous ont fait passer de cette situation à justement le projet de voyager, d'arrêter ça et de partir voyager. Et le premier déclencheur, c'est ce trek dont tu parles, où en fait, on est parti faire la traversée de la Corse, le GR20. Donc, c'est 16 jours de randonnée, un peu coupé du monde avec notre sac à dos et voilà, avec un retour un peu à l'essentiel. On marche, on mange, on dort.
On se régénère pour le lendemain, puis on recommence.
Donc, on a vraiment du temps pour se tourner un peu sur soi et puis aussi vers les autres parce qu'on a eu la chance de faire de superbes rencontres durant ce GR20. On a rencontré des personnes avec lesquelles on s'est suivi durant ces 16 jours.
Avec qui on a gardé contact. Et il y a d'ailleurs des personnes du GR20 là, qui sont venues nous voir en voyage.
D'accord.
Quand on était là-bas.
Et donc, on a été vachement nourris de ces valeurs-là, de voilà, la liberté, le partage, le rapport à la nature, l'effort physique aussi.
Ouais, parce que vous êtes tous les deux quand même assez sportifs et en demande de ça quand même.
Bon, c'est ça, tout ce qui est randonnée, nous on adore partir même pour les week-ends, on adore l'escalade, donc oui, on est plutôt dans cet esprit-là. Ouais. Et c'est vrai que du coup, le retour de ces deux semaines un peu coupées du monde n'a pas été facile. Et on s'est vraiment dit, on était dans un état avant de retourner travailler, en disant vraiment on n'a pas envie.
Le dimanche soir était vraiment compliqué.
Et on s'est dit, mais en fait, est-ce que c'est normal de ne pas avoir envie à ce point-là et est-ce qu'on a vraiment envie de continuer comme ça pendant des années et des années quoi.
Et là, en fait, on s'est dit, mais c'est peut-être le moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cette vie qui nous correspond pas et qu'on suive notre rêve qui est de partir voyager pour retrouver ces valeurs qu'on avait commencé à vivre pendant le GR20. Et donc, on s'est tapé dans la main.
On va faire, on y va, on part en voyage.
Il n'y avait rien de...
D'accord.
Il n'y avait rien de prévu, rien vraiment. De concret, on ne savait même pas vraiment où. Ouais. L'idée, il y avait quelque chose. On a passé un déclencheur à ce moment-là.
Mais d'ailleurs, ça s'est pas fait en un claquement de doigts hein, parce qu'on est parti presque 2 ans après...
En
un claquement de main. On est parti presque 2 ans après cette tapée dans la main, justement.
De ce que j'ai cru comprendre, il y avait aussi... alors évidemment, il y avait ce ras-le-bol du travail, de la vie à 100 à l'heure qui allait autour et tout l'environnement. Mais il y a aussi des gens, j'ai l'impression, qui ont été assez déclencheurs autour de vous, qui ont été, entre guillemets, des instigateurs de tout ça et qui vous ont poussé. Alors, pas forcément, vous reconnaissiez pas forcément dans tout ce qu'ils disaient, mais en tout cas...
Je pense que tu parles d'un copain en particulier, Christophe Pierre, qui l'a connu en maternelle, donc c'est un copain de longue date.
D'accord.
Et donc nous, on s'était tapé dans la main, on voulait partir, mais bon, on s'en occupait pas spécialement non plus, on laissait un peu traîner la chose. Et lui est arrivé à un moment donné en nous disant, Bon, les copains, moi, j'ai décidé de retourner en Amérique du Sud, parce qu'il avait déjà fait un voyage de 7 mois, si je me trompe pas. Il était rentré à cause du Covid.
Okay.
Il avait été bloqué à cause de ça, et un peu frustré de pas avoir pu terminer, donc envie d'y retourner. Et il nous a dit, moi, je pars en
avril
2022, donc si vous souhaitez, on part ensemble.
Et nous, on avait quand même mûri un peu le projet, donc ça devenait un poil plus concret. On savait qu'on voulait partir en Amérique du Sud, on savait qu'on voulait faire
Pourquoi
du
l'Amérique du Sud?
En fait, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Curieusement, on n'a pas réfléchi très longtemps.
Je pense que ça vient de la culture hispanophone aussi. Moi, j'ai fait pas mal de cours d'espagnol. Okay. J'étais en classe européenne espagnole avec des cours d'histoire en espagnol, etc. Donc, j'avais appris, mais sans jamais vraiment pratiquer l'espagnol. Donc, c'est aussi le fait que ça parle la même langue quasiment sur tout le territoire.
Ouais.
Peut être un peu confortable. Une langue que moi, je connaissais un peu, que j'ai très peu pratiquée, mais en rafraîchissant un peu la chose.
Ça te faisait pas peur par rapport à l'Angleterre?
Non, ça me fait, parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'espagnol qu'avec l'anglais.
Okay.
Et puis, je sais pas, on avait déjà vu des photos de paysages, des choses comme ça, qui nous attiraient, je pense, beaucoup.
Oui, et moi, j'étais suivi sur.
J'ai balancé ça à l'Amérique du Sud et en fait on a été d'accord rapidement et ça a pas trop été un sujet à discussion très longtemps.
Ça permettait de découvrir une culture moi que je connaissais pas du tout, une langue que je connaissais pas du tout non plus.
Pas du tout, tu parlais pas du tout.
Rien du tout. Ouais.
Ah ouais.
Vraiment à ce moment-là, c'était allemand LV1,
allemand
LV2.
C'est ça, d'accord.
Et ouais non, vraiment je connaissais rien du tout, mais du coup on a vu aussi que c'était un pays qui avait l'air pratique pour voyager parce qu'il n'y a pas besoin de visa pour voyager en Amérique du Sud.
D'accord.
On a des autorisations de 3 mois tous les pays, donc finalement c'est assez facile pour ça. Les réseaux de transport sont bien développés et pas chers. La vie globale est quand même pas très chère non plus par rapport, par exemple, à l'Amérique du Nord.
Financièrement parlant, c'était possible de partir là-bas sur une longue période.
D'accord.
Voilà, il y avait pas mal de signaux verts.
Je sais pas si ça a joué aussi, mais ma belle-sœur est colombienne.
Oui, j'allais dire, apparemment, c'est une appétence familiale.
C'était pas du tout prévu avant qu'on parte, en voyage, non.
Ils se sont rencontrés pendant que vous étiez en train de parler.
Donc, mon frère est marié avec une Colombienne. Ouais. Ils se sont rencontrés en études en France.
D'accord.
Et ils se sont mariés pendant qu'on était en Colombie.
Oui, c'était une étape.
C'est ça.
D'accord.
Exactement. Okay. Mais leur mariage n'était pas prévu avant qu'on décide de partir.
Du coup, peut-être c'est,
peut-être
l'Amérique
que ça,
du Sud, ça,
aussi,
ça a un peu joué.
Été une motivation,
ouais.
En plus, ça a été, en plus du reste.
D'accord.
Mais, oui, et donc, le choix était assez simple. Et donc, ce copain qui arrive et qui nous dit, est-ce que ça vous dit, on part en avril? Les planètes s'alignaient, quoi, parce qu'on avait déjà choisi l'Amérique du Sud. Lui, il voulait y retourner aussi. Alors que ça s'est dit, c'est fou. Et finalement, ça a été un déclencheur aussi parce que ça nous a permis de fixer une date.
Oui.
Le premier, le fait de se taper dans la main, c'est qu'on s'est fixé l'idée. Et ensuite, on s'est fixé une date. Donc, ça permettait de pas forcément attendre que la date soit parfaite, mais simplement de s'organiser autour. Et ça, c'était quand même un déclencheur assez important. Surtout que dans nos vies professionnelles, on n'était pas forcément alignés, Fanny et moi, en termes de temps.
Oui, c'est une petite peur qu'on avait, ça, de dire est-ce qu'on arrivera à être synchro, à arriver à quitter les travails en même temps, etc.
Sachant que ton travail se passait pas bien.
C'est ça, moi, ça se passait vraiment pas bien. J'avais un stress énorme pour les épaules. J'ai décidé de partir d'ailleurs avant qu'on parte en voyage parce que j'étais en limite burn-out. Ouais, vraiment, vraiment pas agréable à vivre. Du coup, j'ai dit j'arrête maintenant. Je vais prendre le temps j'aurai le temps pour préparer le voyage pour partir. Mais bon, du coup, c'était finalement ça a aussi lancé le truc de dire c'est peut-être le bon moment. Moi, j'ai plus d'accroche par rapport au boulot.
Une planète de plus qui s'aligne finalement.
Parce qu'il n'y avait pas. On dit tout souvent qu'il faut s'écouter, écouter son corps, écouter et s'écouter justement pour éviter d'arriver à ce genre de rupture. Est-ce que finalement, même tout votre corps aussi disait bon là c'est bon.
Carrément. Moi j'étais vraiment fatiguée. Déjà je dormais très peu. Enfin j'ai vraiment du mal à dormir. Je me souviens que j'avais du mal à marcher. Enfin je marchais beaucoup au travail. J'étais beaucoup debout.
Ouais.
Donc je rentrais le soir mais j'avais mal sous les pieds. C'était une catastrophe. Je m'asseyais dans le canapé et je faisais plus rien. J'avais pris des boutons de l'acné vraiment sur le visage. Alors c'était la période du Covid avec le masque. Donc je mettais le compte sur ça au début. Mais bon c'était clairement lié à ça. Donc le corps
parlait, quoi. Et justement, vous dites 2 ans de préparation, et finalement, c'est tombé pendant le Covid, parce qu'en termes de timing, cette partie, donc c'était le 22 juin 2022, si je ne m'abuse.
Le 14 juin,
ouais.
Mais bon, c'est dans ces eaux-là,
donc juin 2022, donc 2 ans avant,
on est pile
dans les années où on peut pas partir, en fait.
C'est ça, quand on est parti en voyage sur le Gervin, on est parti là aussi, parce que c'était la période où on pouvait pas partir à l'étranger, etc.
C'était plus simple aussi, ouais.
Et ouais, c'était, c'était pile entre deux Covid, je sais pas si tu peux dire ça, mais entre deux confinements.
Voilà. Voilà. Ah, la joie du confinement.
Ouais.
Et du coup, c'est ça aussi qui a fait peut-être que ça a ralenti un petit peu les préparatifs et de se dire, bon, c'est peut-être pas le bon moment aussi de partir.
Je pense que ça a pas eu d'impact pour
non,
le coup.
Pas direct?
Pas direct. Enfin, ouais. Ça, pour le coup, j'ai pas sentiment qu'on a ralenti quelque chose par rapport à ça.
Si, Fanny, moi je pense que ça a plutôt accéléré parce que pendant la période de Covid, nous, en étant en production, on a continué à aller travailler. Ça fait partie des entreprises essentielles. et il a fallu, en plus de la charge de travail de d'habitude, gérer les absences, donc toutes les personnes, les opérateurs qui n'étaient pas sur place. Donc on a un peu une charge de travail encore plus importante, qui a encore plus vite contribué, je pense, au fait que ça a été compliqué, quoi.
À un moment donné, faut y aller. C'était vraiment ça, en fait. Tous les messages, c'était...
ouais, c'est ça. Il y a un moment où tout s'aligne, c'est-à-dire, bon...
On rigole parce que c'est notre GPS qu'on a mis en...
C'est un tonneau.
Avec l'accent toulousain.
Ah ouais, d'accord, évidemment,
avant de partir, il nous dit, à un moment donné, faut y aller.
Et du coup, là, juin 2022.
Ouais, finalement, notre copain a décommandé quand même.
Il nous a dit, moi, j'y vais plus.
C'est ça, finalement. Okay. En fait, j'ai réfléchi. C'est pas dans mes projets. Finalement, j'ai changé d'avis. Je veux plus repartir tout de suite. Je repartirai sûrement, mais pas tout de suite.
Ça vient évoluer. Et voilà. Ok.
Et en fait, on a validé le truc sans problème.
C'était... Oui, et après, on a simplement décalé les dates parce qu'on avait des événements familiaux et d'amis. Il y a eu un mariage d'une amie qu'on avait absolument envie de faire.
Et mon père qui a fêté ses 60 ans. Et voilà, du coup, on est parti juste après. On a fêté les 60 ans avec mes parents et on est parti dans la foulée. C'est mon frère qui nous a posé sur une aire de covoiturage pour qu'on prenne un premier blablacar en direction l'Espagne.
Et là, ça y est, on y est. Et on est avec notre sac à dos sur un parking en attendant un bus qui nous dirige vers Madrid. Non, vers Barcelone. Et ça y est, le rêve se réalise, quoi.
Et là, vous aviez prévu quand même aussi de voyager aussi plutôt à pied et en transport en commun de manière générale aussi. Vous vouliez pas ni louer des véhicules sur place ni
On voulait prendre le temps, c'était ça. Ça faisait un peu suite à un voyage qu'on avait déjà fait en Europe à la fin de nos études. On était parti un mois, on avait un mois, rien n'était prévu, donc on est parti un mois en Europe. On avait fait un tour un peu plutôt des capitales, grosses villes, en blablacar, en covoiturage. Et là, on était parti, mais en ayant tout préparé. Donc, on avait tout réservé à l'avance, les hébergements, les trajets. On s'était tout planifié. Donc, on avait adoré le fait de découvrir chaque jour des nouvelles choses, etc. quoi. Mais on n'avait pas du tout laissé la place
à
l'improviste. Ouais,
à la spontanéité. En fait.
Encore le côté vie à 100 à l'heure et on a tout prévu et on sait sur quoi on va tomber, quoi.
Et c'est vrai que en partant, on a réfléchi sur un peu le sens de notre voyage. D'ailleurs, j'ai eu des discussions avec mes sœurs, par exemple, qui me disaient « Ah, mais tu sais, nous, on a des amis qui l'ont fait, qu'on fait des voyages comme ça. » Et ouais, c'est important de donner un sens à son voyage. Et par exemple, vous pourriez, je sais pas, aller suivre la filière cacao ou la filière café en Amérique du Sud.
Ouais.
C'est une super idée. Et je pense que ça peut être un très beau projet, mais sur le moment, ça nous a pas du tout parlé.
Ça nous parlait pas.
Et on s'est rendu compte que c'était pas ça notre envie, quoi. Puis on a parlé avec d'autres personnes, avec Pierre, qui nous a dit non mais en fait il y a pas de raison pour partir voyager. Okay. On le sent, c'est dans les tripes, quoi.
Ouais.
Ok, donc ça nous a détendu un peu. Et puis on a lu pas mal de retours d'expérience de personnes sur Internet qui sont parties dans des voyages comme ça.
Okay.
Et il y a une phrase qui m'a marqué, qui a dit. Finalement, ce qu'on part chercher en voyage, finalement, on ne le découvre qu'une fois qu'on est rentré. Ouais. Et du coup, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais oui, en fait, en même temps, c'est ça l'aventure. On part vers quelque chose qu'on ne connaît pas.
Évidemment, ouais.
Et donc, finalement, notre envie de voyage, notre sens, c'est peut-être simplement la découverte ou les découvertes, parce qu'on avait envie de découvrir des paysages, de découvrir des cultures, de découvrir des personnes.
Des gens. Ouais.
Et on avait aussi envie de se découvrir nous-mêmes. L'idée était aussi de justement sortir de ce train qui roule à 100 à l'heure et de se rendre le cerveau plus disponible pour avoir une énergie plus positive, pour réfléchir un peu comment on voudrait repartir et vers où est-ce qu'on voudrait aller, quoi. Donc vraiment une découverte de nous-mêmes, finalement. Donc on a décidé d'appeler notre voyage. Alors on a fait un petit blog en ligne là sur Polar Step et on l'a nommé Découverte au fil des Andes.
Oui.
Parce que l'idée était de suivre les montagnes, les Andes, finalement des Caraïbes à Ushuaia, pour pouvoir profiter de ce terrain de jeu exceptionnel pour faire toutes ces découvertes.
Et ouais, et c'est là que effectivement le voyage commence. Donc il commence en Espagne, comme vous le disiez. Vous êtes avec votre sac à dos. Vous avez appris à vivre du coup minimaliste, on va dire.
Ça fait partie de la préparation du voyage, de savoir qu'est-ce qu'on met dans un sac, combien est-ce qu'on prend de culottes, qu'on prend de t-shirts.
Combien alors on prend de culottes?
Eh ben on en prend pas beaucoup. On en prend 4 et j'ai réussi à perdre la première dans le premier hostel. Okay.
Donc il y en avait une de trop.
Finalement, t'as vécu 14 mois avec 3 culottes.
Exactement.
C'est ce que t'es en train de me dire. Ok, c'est... Je suis impressionné. Évidemment, ouais. Et donc toute cette préparation, évidemment, il y a un aspect aussi que je pense qui va parler à beaucoup de monde, mais l'aspect financier, comment aujourd'hui on peut partir un an évidemment je suppose que vous avez pas travaillé pendant ces 14 mois, ça fait 14 mois.
Oui, c'est ça.
Donc comment on fait pour les gens qui seraient derrière et qui disent mais moi aussi moi je vais y aller.
Alors. Bah nous déjà on avait budgétisé sur un an à la base. On pensait partir 12 mois.
Et en gros, on s'est beaucoup appuyé sur un site vraiment de référence pour le voyage, qui s'appelle Tour du Mondiste.
Ouais, c'est la bible du voyageur, ça.
Ok.
Il y a vraiment beaucoup d'informations, notamment sur les budgets, notamment sur comment faire son sac. En fait, ça, vraiment, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est toujours le conseil qu'on donne d'aller voir ce site.
C'est des retours d'expérience, en fait. C'est deux anciens voyageurs qui ont monté ce site et qui font des enquêtes régulièrement auprès des voyageurs qui sont partis. Pour ensuite redonner des données, quel est le prix moyen par jour, par pays, qu'est-ce qu'on peut faire dans tel pays, etc.
C'est toujours d'actualité. Mmh. D'accord.
Et nous, notre enveloppe, globalement, c'était 15 000 euros par personne.
Ouais.
Okay. Et franchement, le retour d'expérience, c'est que donc on a grappillé 2 mois, puisqu'on est parti 14 mois au lieu de 2.
Sur le même budget.
Et on a pu vraiment faire un voyage que moi, j'ai trouvé confortable. Après, le confort, c'est toujours propre à chacun.
Ça fait,
mais disons qu'on a quand même la majorité du temps dormi dans des hostels, donc dans des chambres privatives où on était juste tous les deux.
OK.
Donc, voilà, il y a possibilité d'avoir plus de confort en ayant des chambres vraiment individuelles dans des hôtels avec une salle de bain privée, etc. pour les personnes qui veulent augmenter ce niveau de confort. Donc, ça augmente le prix. Ou alors, il y a moyen de descendre ce budget en ayant des dortoirs, voire en faisant plus de camping. Mmh.
On est parti avec notre tente et le matériel pour camper.
D'accord, quand même.
Donc, on l'avait avec nous et on l'a beaucoup utilisé, notamment pour les treks et les randonnées.
Bien sûr. Hein.
Mais dès qu'on était en dehors de ça, nous, on dormait toujours dans du dur.
D'accord. Ouais. Et pour 30 000 euros, globalement, on peut vivre aujourd'hui 12 mois
dans
ces pays-là. Donc, en termes de niveau de vie,
Après, il faut faire attention parce que dans chaque pays, il y a des niveaux qui peuvent être très différents. On passe au Chili, notamment, où c'est un niveau de vie qui est presque égal à la France, alors que le Pérou, ça va être 4 fois moins, à peu près, pour donner une idée.
Voilà, vous êtes passé, c'est vrai que vous êtes passé par pas mal de pays.
C'était un joli exercice de conversion de monnaie dans chaque pays, d'ailleurs.
Et on n'est pas sur l'Union Européenne, là-bas.
On réapprenait à diviser par 4, à multiplier par 5 000.
D'accord.
Ouais, à chaque pays était différent.
Et vous êtes arrivé justement à ça. Alors, pour revenir justement à ce sac, vous êtes arrivé sur ce parking. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là? Aujourd'hui, vous êtes en Espagne. Ça reste pas trop dépaysant, mais vous êtes en Espagne et là, vous allez prendre l'avion du coup pour directement Lima. C'est ça?
Oui, c'était direct. Ouais. On est même parti de France pour prendre un premier covoiturage plus un bus derrière qui nous emmenait à Barcelone.
Ouais.
Donc en fait, moi le parking que j'ai en tête, c'est le parking de Valence là où on est.
D'accord.
Parti,
Valence, c'est vrai.
Bah, t'es même encore en France.
Mais dans nos têtes, il y a de l'excitation.
Ouais.
Il y a un peu une forme d'incrédulité en se disant mais on a travaillé 2 ans pour préparer ça et ça y est on y est. Donc c'est une forme de changement,
bien sûr.
Puis il y a des peurs,
il y a forcément
parce qu'on
ne
sait pas ce qu'on va découvrir. Au début c'est très concret, on va prendre l'avion, tout ça,
bien sûr.
Puis après on arrive et
qu'est-ce qu'on fait?
On est parti en ayant réservé les 3 premières nuits d'hôtel.
D'accord.
Quand même, on s'est pris une petite marge.
La marge de sécurité, de confort.
Et puis voilà, après on n'avait rien réservé, on n'avait rien sur place.
Et puis il y a quelques peurs de comment fonctionne réellement le pays. On entend beaucoup de choses.
Ouais,
on dit qu'on va arriver, on va aller à l'aéroport. Donc déjà, il va falloir prendre un taxi. Est-ce que les taxis sont tous fiables? On a entendu pas mal d'histoires. Ouais. On avait quand même en tête. On a trouvé qu'il y avait beaucoup d'histoires entendues, qu'on avait entendues en préparant le voyage, plutôt négatives.
Ouais.
Et en fait, c'est super parce que ça fait partie des apprentissages qu'on a pu avoir au fur et à mesure du voyage. Où, à chaque fois, ces peurs ont été démontées au fur et à mesure de nos expériences, quoi. Et en fait, ça s'est très bien passé au fur et à mesure. Voilà, on a simplement arrivé dans notre hôtel. Alors si, il y a eu un drame, c'est Fanny qui a oublié, la 4e culotte en repartant du premier hostel. Non, vraiment, c'était des bonnes expériences. Et en fait, tout le long du voyage, ça a été comme ça. Et on a tiré pas mal d'apprentissages justement de ce voyage. qu'on s'est amusé à lister pour en arrivant pour.
Bien sûr.
Ouais, pour merci ça, de nous ça, avoir conviés à ce podcast parce qu'en fait, en vivant des expériences comme ça, on expérimente, on vit des choses et on met pas forcément des mots dessus. Donc en rentrant, on essaie d'en parler, mais c'est pas évident. Et puis il faut du temps et du recul pour réussir justement à mettre un peu des mots sur des apprentissages qu'on a l'impression d'avoir fait et ça nous aide à les intégrer. Et donc, bah ouais, c'est un bon exercice d'en parler justement devant le micro.
Petite introspection, ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas évident, mais moi, on a un ami en commun.
Simon.
Rien caché, Simon, si tu nous écoutes, qui m'a dit clairement, il m'a dit quand tu es rentré spécifiquement que tu te trouvais apaisé. Alors, il te connaît effectivement depuis de nombreuses années, et du coup, il me parlait de ça. Si t'as appris peut-être quelque chose, c'est peut-être à cette vie à 1000 à l'heure, parce que même. Tu dis 100 à l'heure, mais j'ai vu sur vos notes, vous aviez mis 1000. cette vie à 1000 à l'heure, finalement, vous avez réussi à la ralentir, quoi.
Ah bah oui, ça c'était un très bon un objectif.
Ouais, je pense que c'était vraiment l'objectif qu'on avait, et c'est pour ça qu'on voulait partir aussi sans billet de retour. On n'avait pas le billet pour arriver à Lima, et voilà. Et ça, on a vraiment été contents parce que ça permet vraiment de pas avoir la contrainte de dire il faut absolument qu'on soit à telle date à tel endroit, il faut qu'on avance parce qu'il faut qu'on soit, ouais. Il faut qu'on aille ici. Là, on était vraiment sur un lieu, on s'y sent bien, on reste plus.
On reste un peu plus.
On s'y sent pas bien, on s'en va.
Ouais.
Donc là, une énorme liberté de pouvoir vraiment suivre ses envies. Si on a besoin de repos, pareil, on peut prendre un jour où on se repose. Même en voyage, on a besoin de jours de repos.
C'est du boulot.
C'est du boulot.
C'est pas du boulot, mais ouais, c'est vrai que même les premiers temps en arrivant, il y a beaucoup d'acclimatation à faire, d'adaptation, c'est une nouvelle langue. On arrive dans des pays où l'altitude est quand même relativement haute. Donc à Lima, on est au bord de l'eau, mais on est rapidement monté à Cusco, où on est déjà à 3500 mètres d'altitude. La nourriture est différente, les coutumes sont différentes. Donc finalement, même sans travailler sur place, il y a des fatigues qui peuvent être là aussi assez facilement, quoi.
Vous êtes arrivé, vous aviez une espèce de, pas de but, mais en tout cas, vous avez une espèce de conscience écologique par rapport à ce que vous avez fait, par rapport, évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup du bilan carbone et de l'avion particulièrement. Alors, peut-être montré du doigt à tort, mais en tout cas, on en parle beaucoup. Et comme vous faisiez ça, non, pas forcément dans cette optique-là, mais est-ce que vous aviez cette conscience un peu écologique et sentir, alors je pense aussi, parce que j'ai lu un petit peu ce que vous avez fait, et je pense à un festival, et à la suite de ce festival, enfin, en tout cas, de cérémonie où on a d'autres coutumes aussi et on essaie de célébrer la nature et on la célèbre pas forcément sur la fin.
Oui, l'anecdote que tu parles, ouais, c'est une fête au Pérou où en fait on a été un petit peu surpris parce que au Pérou il y a quand même une culture de la même un culte, c'est plus qu'une culture, c'est un culte qui date des Incas c'est un culte à la Pachamama qui est une divinité qui représente la nature, on va dire.
Ça signifie la terre mère en quechua.
Donc, sur cette anecdote-là, on est le 21 juin, jour du solstice d'été, et en fait, jour de la fête du soleil pour les Incas. Et cette fête est toujours célébrée traditionnellement aujourd'hui, notamment à Cusco, qui était la capitale des Incas. Donc, c'est une énorme cérémonie avec des centaines de personnes qui font un spectacle, qui sont vraiment figurants avec des costumes traditionnels. Et ça se passe dans les hauteurs de Cusco, sur un site, un ancien site sacré qui s'appelle Sacsayhuaman. Donc on avait pu se lever très tôt le matin et aller grappiller une petite place sur une colline pour avoir la vue sur ce spectacle. Et en fait, on était avec tous les locaux. Donc on était des centaines de personnes agglutinées les uns sur les autres, assis dans l'herbe sur cette colline. Et quand la cérémonie a débuté, tout le monde s'est
juste pour expliquer la cérémonie, c'est plein de danseurs ils essaient de représenter des scènes qu'il pouvait y avoir à l'époque, des rites, etc. Donc beaucoup de danse, beaucoup beaucoup de recueillement. Donc il y a beaucoup de moments où il se passait pas grand chose, il y avait juste un grand silence.
Ok.
Oui, complètement. Et en fait, là, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à se lever, à vouloir avoir la place devant, à vouloir passer devant la foule
pour prendre des photos un petit peu.
Ça forçait des pierres même.
Okay. Du coup, ça énervait ceux derrière qui voyaient plus. Okay. Donc, finalement, ça a été super conflictuel. On n'a pas passé un super moment parce que voilà. Et ensuite, tout le monde est parti à la fin de la cérémonie, même un petit peu avant, en laissant des tonnes de déchets par terre. Ouais.
Alors donc qu'on on célébrait la terre-mère, c'est justement c'est ça qui est l'ambivalence.
Toute l'ambivalence.
Mais après, par rapport à notre vision écologique, c'est qu'il y a quand même une certaine dualité parce qu'on est parti avec une certaine conscience écologique, une certaine sensibilité, mais malgré tout, on prend pas mal d'avions quoi pour aller là-bas, donc le bilan carbone il est pas bon du tout.
Ouais.
Et en même temps, sur place, on a eu vraiment beaucoup de, on a observé énormément de choses, énormément de tableaux témoins du réchauffement climatique ou témoins de l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc ça nous a vraiment encore plus sensibilisés. Et on en revient avec, je pense une conscience écologique grandie et une envie, une motivation à s'investir pour l'environnement qui est d'autant plus renforcée. Donc, c'est peut-être un investissement. Je sais pas, faudrait réellement faire le bilan carbone de tout ça sur nos prochaines années à venir pour voir si ça s'équilibre. Mais voilà. Et puis même cette anecdote des déchets par terre, c'est aussi une bonne dualité, je trouve, entre l'apparence et réellement l'impact environnemental En fait, les déchets, c'est un beau sujet en voyage. Le Pérou est aussi un bon exemple. C'est que, en arrivant avec notre regard de touriste français là-bas, nous, on a tout de suite remarqué qu'il y avait des déchets présents un peu partout dans la nature. Voilà, à certains endroits, on n'est pas habitué à le voir en France. Et donc, le réflexe, c'est de se dire, ah là là, il y a un impact environnemental.
Évidemment.
Et en fait, quand on fait le bilan carbone, réellement, des gens qui habitent au Pérou et puis des gens qui habitent en France, en fait, c'est pas comparable parce que les personnes qui habitent au Pérou, la majorité des constructions sont faites avec les matériaux présents sur le terrain. C'est-à-dire que les gens achètent un terrain et le creusent pour fabriquer avec l'argile et avec des pierres, de la paille, des formes de briques qui sont séchées au soleil. Et en fait, ils montent des maisons comme ça. Et pour faire les poutres, ils coupent les arbres parce que il y a quand même quelques arbres, notamment dans les vallées. J'ai perdu le nom.
Des eucalyptus.
Merci. Et donc, déjà, il y a pas du tout de fabrication de béton. Donc ça diminue beaucoup l'impact. Les gens vivent avec pas de chauffage. Ou alors c'est rare, il peut y avoir des feux de cheminée,
c'est faut voir qu'on est quand même très haut en altitude, il y a quelques eucalyptus mais il y a quand même très peu de forêts, très peu d'arbres. Donc
en termes de climat
c'est assez étonnant. Quand on arrive, c'est des climats qui sont très très secs. Donc pour donner un exemple, on est monté en altitude des fois plus de 6000 mètres, il y a pas de neige.
D'accord.
Donc c'est vraiment des climats très très secs et où du coup il y a une grosse différence de température entre le jour et la nuit. Donc en journée, dès que le soleil tape, on est finalement assez proche de l'équateur. Donc dès que le soleil tape, il va faire très chaud, on peut monter facilement à 25 30 degrés. Dès qu'on est à l'ombre, dès qu'on passe à l'ombre, on a envie de renfiler une petite veste parce que la température dégringole. Et dès que le soleil se couche, donc assez tôt le soir, c'est assez constant toute l'année vers 5-6 heures de l'après-midi. Là les températures dégringolent et ça va vers les 0 degrés pendant la nuit.
Ok, ouais, donc on a toutes les saisons en une journée.
C'est un peu ça, ouais. Là que c'est difficile parce que quand on rentre dans son hostel le soir, il y a pas de chauffage à ce moment-là, les températures sont basses et du coup faut bien s'habiller.
Ça c'était du coup il y a quand même deux saisons. Là on parle du Pérou et c'est un peu le même climat aussi en Bolivie, je dirais, et peut-être au nord de l'Argentine. Et en Équateur, ouais. Mais là on parle surtout des zones dans les Andes et on était présent durant l'été français, donc c'est la période sèche.
C'est ça, en fait il n'y a pas quatre saisons là-bas, il y a la saison sèche et la saison humide.
D'accord.
Voilà. Donc c'est vrai que il n'y a pas de consommation d'énergie pour le chauffage en tout cas, et puis même la consommation générale, les gens il y a beaucoup moins de matériel dans les maisons.
Pas de transport particulier pour la nourriture, l'acheminement de la nourriture ou l'acheminement des biens ou des.
Même des transports personnels, beaucoup moins de voitures par chez nous parce que c'est un réel coût pour certains habitants là-bas. Et du coup, il y a un gros système de. Ils appellent ça des collectivos, donc c'est des minibus qui sont en place, des transports en commun avec lesquels on peut aller quasiment partout. Donc c'est ces petits bus auxquels on arrive, on se pointe, il n'y a pas d'horaire, on y va toujours au hasard, donc c'est des bus de une quinzaine de personnes et qui s'en vont quand le minibus est plein.
Donc il y a des rabatteurs dans la rue qui crient en fait la destination Lima, 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 Lima.
D'accord.
Et qui viennent te chercher, qui te tiennent par la manche et tu vas Lima, monte, il reste deux places et on part, go.
Et ça fonctionne parce que énormément de gens prennent ces transports là, donc en général tous les 15 minutes il y a un bus qui part. On attend très peu, quoi.
Ça reste cohérent.
Et c'est extrêmement efficace, c'est fou, on peut vraiment se balader partout facilement en transport en commun. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le besoin d'avoir une voiture individuelle là-bas.
Il n'y a pas de réseau ferroviaire, il n'y a pas de... C'est pas interne au pays, c'est vraiment le bus de manière...
Alors le réseau ferroviaire, il y a des rails, mais en fait, elles sont la plupart du temps hors service, parce que dans la tout le long de la chaîne des Andes, il y a énormément de séismes.
Ok.
Et donc, c'est pas du tout des zones appropriées pour faire des chemins de fer. L'entretien est trop compliqué.
D'accord.
Et donc, ouais, effectivement, ça faisait partie des étonnements qu'on avait en arrivant. En fait, on n'a jamais pris le train.
D'accord.
Il y a quelques trains qui circulent, notamment il y en a un au Pérou pour aller au Machu Picchu. C'est un train touristique qui est vraiment réservé à ça, qui est plutôt avec un coût très élevé et voilà, qui sert vraiment à ça, qui est une petite ligne finalement, qui sert juste à aller au Machu Picchu et à y revenir.
Et vous avez donc vous étiez fan de trek, donc vous avez fait des treks aussi, vous avez programmé les premiers treks. Donc après ces fameux 3 jours un petit peu confortables, on va dire. Vous avez commencé à vous dire, on a besoin de sortir un peu de ça et de faire un trek. Alors, le premier trek, comment ça s'est passé, Fanny?
C'est un beau souvenir de voyage. Donc ouais, ça faisait déjà presque 2 semaines, je pense, qu'on était arrivés. On s'était déplacé de Lima à Cusco, donc dans les montagnes au Pérou, et on avait donc très envie de faire ce trek, qui s'appelle le trek du Choqquequirao, qui passe par une cité inca qui est encore plus grande que le Machu Picchu, qui est assez dur d'accès, et qui c'est un trek qui continue pour arriver jusqu'au Machu Picchu. Donc on avait déjà pris nos billets pour arriver au final, parce que c'est se réserve à l'avance. Et on part pour ce trek avec 2 Français qu'on avait rencontrés dans notre hôtel à Lima les premiers jours. On était en cohérence pour le faire à peu près au même moment. On part avec notre sac à dos pour 7 jours de trek, il me semble. Le premier jour, on attaque, c'est une petite journée, pas de problème. On se prépare pour le lendemain, et le lendemain, grosse descente, donc presque 1400 mètres de dénivelé. D'accord. Et presque à la fin de la descente, Chris a entendu un gros hurlement. j'ai glissé sur un caillou, en gros, et je me suis tordu la cheville.
Début du séjour.
Début, ouais, c'est ça. 2 semaines, presque quasiment 2 semaines après être arrivé, début du séjour. Donc là, bah, en fait, le cri, c'était pas spécialement un cri de douleur. Je pense que c'était plus ce que j'ai su. Ouais. En fait, sur l'instant, j'ai su que j'allais pas pouvoir continuer.
Ouais.
Que là, j'allais pas pouvoir reposer le pied par terre et qu'il allait falloir renoncer à ce trek-là et potentiellement réfléchir à ce qu'on allait faire à la suite, parce qu'on avait quand même plein d'idées. C'était une région où il y avait plein de randonnées, de choses comme ça à faire dans le coin. Donc, on avait bien l'envie de pouvoir profiter de ces treks-là.
Ça stoppe un petit peu, finalement, les envies du moment.
Exactement, ouais. Finalement, on est parti en réservant que 3 jours, mais on avait déjà un peu fait les plans, quand même, je pense, des premières semaines dans la tête. Et ça nous a bien permis, je pense, de dire non, en fait...
La vie
c'est
a
ça,
décidé
c'est pas
autrement.
Fait comme ça, okay. Et là, ça nous rappelle bien que ça va pas se passer.
En fait,
ça.
Cette expérience, je la trouve intéressante dans le voyage, parce que elle nous a beaucoup appris, justement, enfin, pour refaire le lien avec les apprentissages du voyage. Ouais, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui permet de parler de plusieurs apprentissages qu'on a fait. C'est que c'était un trek, vraiment, on savait qu'il était difficile. Donc, il y avait quand même beaucoup de préparation à faire. Et c'est vrai qu'on avait très envie de le faire, donc on avait des attentes. Et même dans le voyage, en général, on partait, c'était la première aventure qu'on allait faire vraiment un peu dans la nature. Donc on avait cette attente de, ouais, ça y est, on va pouvoir faire une vraie expérience de trek, de nature, de sport, de dépassement. Bon, il y avait tous ces termes un peu... Voilà. Et puis... on allait pouvoir voir ce que c'est que les Andes aussi, ce que c'est que la nature. En plus, on rencontre 2 Français, et donc on allait pouvoir partager l'expérience avec eux. Donc on avait en plus cette notion de partage. Donc on remplissait un peu toutes nos attentes, quoi.
Toutes les cases.
Donc on avait un optimisme dingue. Chose qui, d'ailleurs, dans le voyage, en fait, on s'est rendu compte que le voyage est un superbe laboratoire pour découvrir l'optimisme, parce qu'on est toujours entouré de gens où dès qu'on a une idée, le premier réflexe quand on échange avec des personnes, c'est tout de suite, ah, mais c'est génial. Et ça, c'était assez agréable, parce que
moins le cas en France.
Alors on a mesuré un certain écart en revenant, ouais, parce que
d'accord.
Parce que voilà, du coup, on a vécu 14 mois dans cet optimisme où, par principe, c'est toujours bien, c'est toujours une bonne idée.
Ouais.
Et ensuite, en fait, on réfléchit un petit peu comment faire.
Ouais, super.
Mais du coup, le comment faire, on y réfléchit avec une énergie hyper positive.
Okay.
Et donc, dans tous les cas, on peut se projeter sur le projet en se disant, ouais, c'est génial, ça va être trop bien, tout va être parfait. Ou alors, on peut se dire, bah ouais, mais non, mais ça va être, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte. Dans les deux cas, c'est abstrait. Mais disons que l'optimisme donne une énergie beaucoup plus positive pour se projeter après sur le comment faire. Donc voilà, là c'était chouette pour ce projet-là. On était très optimistes. Et en fait, par contre, l'optimisme, il arrive aussi avec une certaine forme de responsabilité. On s'en est rendu compte après le voyage.
Enfin,
parce que être optimiste, ça n'empêche pas d'être... il faut pas le confondre avec l'idéalisme. En fait, l'optimisme d'un projet, c'est génial, on va partir faire le trek du Chokekirao. Il faut pas se dire, du coup, tout va bien se passer. Ouais. Et nous, on s'est dit ça. D'accord. En fait, on s'est dit, de toute façon, ça va être trop bien. On est, c'est bon. En plus, on avait un peu notre ego qui nous faisait dire, c'est bon, on fait des treks en France, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Il y a une petite voix dans notre tête qui nous disait, quand même, ça va être dur. Hein. Puis bon, c'est vrai que c'est des altitudes, on n'y est jamais allé.
Ouais.
Puis bon, c'est vrai que là, on n'a pas fait de rando depuis longtemps. Mais c'est pas grave, on y va. Okay. Ah, puis c'est vrai que finalement, le couple de Français avec qui on va le partager, eux, ils ont beaucoup d'expérience. Ils arrivent ils ont déjà fait plusieurs treks en haute altitude. Donc il y avait pas mal de signaux faibles en fait, mais on les a pas regardés. Et ça a conduit à cet accident finalement, qui est un petit rappel du destin, je sais pas. En tout cas, c'est les faits. Ça nous a, après, quand on a réfléchi un peu à la situation, on s'est dit, mais oui, on aurait dû faire attention aux signaux faibles.
Ouais.
Parce que ce qui s'est passé derrière, c'est que on a été forcé à renoncer.
Ouais, on l'a un peu subi, quoi.
Plus l'après, finalement, vous avez eu une période, du coup, où vous avez dû vous adapter et de dire que toi, tu pouvais pas te déplacer
après
du tout.
Après le rapatriement en mule.
Parce qu'il n'y a vraiment pas l'hélicoptère Europe Assistance, on est d'accord.
On est retourné, du coup, à Cusco, là, la ville principale, où, forcément, oui, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que les premiers jours, moi, je pouvais pas marcher, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on utilise notre phrase préférée, qui est
en chaque problème se cache l'opportunité. Je crois que c'est Albert Einstein.
Exactement. Je suis allé chercher, effectivement, il dit au milieu de toute difficulté se cache une opportunité, effectivement. C'est ça.
Voilà.
Ouais, on l'applique souvent, cette phrase. Elle nous correspond pas mal.
Ouais. Alors, était l'opportunité?
Il y en a eu quand même plusieurs, parce que on est revenu, c'était très rigolo. D'ailleurs, on est revenu à l'hôtel où on était. Et, on a retrouvé des personnes qu'on avait rencontrées avant de partir en trek. Et on s'était tous dit au revoir, parce que nous, on partait faire un trek là. Il y en a qui partaient faire un trek ailleurs. Il y en a qui partaient de la ville. Et on revient à cette porte d'hostel, plus d'une semaine avant la date prévue. Et là, on retombe sur tout le monde.
Okay.
Il y en a qui étaient partis faire un trek, pourquoi vous êtes là?
Regarde ma cheville.
C'est ça. Donc nous, la cheville, il y en a qui étaient partis faire un autre trek, ils étaient tombés complètement malades à cause de l'altitude, etc. Il y en a un qui devait partir dans une autre ville pour visiter, je sais pas quoi, le bus est jamais passé le chercher. Enfin bon, bref, du coup, on s'est tous retrouvés là. Et là, on a dit, on en profite. Donc on a passé une semaine à aller dans un bar à jeu l'après-midi et aller dans un petit bar le soir en jouant de la guitare, musique et en buvant des pisco sour. Du coin. Et chose que je pense on n'aurait jamais anticipé avant de partir en voyage, de se dire on part en voyage et au bout de 2 semaines on va juste rester sur place et faire le même programme chaque jour pendant un certain temps.
Et là on a créé du lien avec ce groupe en fait, qui fait que plus tard dans le voyage on a repartagé des moments avec certaines personnes de ce groupe, et même du coup en partageant ces moments avec certaines personnes de ce groupe, notamment quelqu'un qui s'appelle Yoda, c'est son prénom, et qui en fait nous a fait rencontrer des amis à lui, notamment Oran, avec qui finalement on a passé un mois, même un peu plus, ensemble à voyager. Donc c'était vraiment l'opportunité de vivre des choses derrière qu'on n'aurait pas imaginé.
Ouais.
Et la deuxième opportunité, c'est qu'on a réfléchi un peu du coup qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas un volontariat dans le coin. C'est des choses qui se font beaucoup en voyage. D'ailleurs, c'est une façon de voyager quand on a peut-être un peu moins d'argent, c'est de partir et de travailler pour des personnes en échange du logis et du couvert, en général. Donc, il n'y a pas de rémunération derrière, mais ça permet de voyager un peu plus longtemps, par exemple. Et on a trouvé un gars là qui était habité dans la Vallée Sacrée, donc proche de Cusco, qui avait une petite... un centre de permaculture.
Okay.
Et qu'accueillait des personnes pour leur apprendre, partager ses connaissances sur la permaculture. Okay. Donc permaculture, c'est au sens large, c'est pas que le potager comme on pourrait dire en France, c'est vraiment potager, de la bioconstruction, de la transformation de plantes en cosmétiques, des toilettes, ça passe par les toilettes sèches, c'est vraiment global.
En fait, l'idée est vraiment de vivre en harmonie avec son milieu. Du coup, ça touche tous les aspects, même social. C'est pour ça aussi qu'il accueille des gens pour pouvoir partager ses connaissances, puis recevoir aussi un point de vue extérieur. Du coup, c'est vrai que ça nous a donné beaucoup d'apprentissage déjà par rapport à ça, par rapport à comment vivre en harmonie, et puis enfin, qu'est-ce que c'est qu'un peu mettre un mot dessus, qu'est-ce que c'est que la permaculture. Il y en a qui pourraient parler de développement durable, en fait, ouais, c'est un peu la même chose.
Un peu le même esprit.
Et puis, surtout, ça nous a fait une expérience de 2 semaines avec un Péruvien, avec lequel on a pu avoir une relation privilégiée, parce qu'on était tous les trois, partageaient nos repas du midi ensemble systématiquement, enfin, en semaine, à part le week-end. On partageait des expériences où il nous communiquait bah, son savoir. Moi, ça m'a permis d'apprendre, de développer mon espagnol aussi. C'est, je pense que j'ai progressé à ce moment-là.
Parce qu'il était à ce moment-là, puis quand je me suis cassé la tordu la cheville, bah je pouvais plus me déplacer pour aller faire les courses ou quoi. Donc, il a bien progressé à ce moment-là aussi. Obligé par la force des choses, c'est une opportunité. Il a pu approfondir l'espagnol du quotidien.
En parlant avec les commerçants.
Maintenant, t'es totalement bilingue espagnol-français.
Bah bilingue non, mais mais oui, je peux tenir une conversation en espagnol. C'était super agréable à la fin du voyage de pouvoir échanger justement un peu avec tout le monde et même de reconnaître les accents des différents pays par lesquels on est passé. C'était assez rigolo, ouais.
Et ouais, parce que vous êtes pas, on parle beaucoup du Pérou, mais effectivement, vous êtes allé dans plusieurs pays, dont la Colombie aussi, l'Équateur, l'Argentine,
Le Chili.
Le Chili.
On est passé par le Paraguay.
Quelques semaines.
Et on a fini par la Bolivie.
Vous avez fini par la Bolivie.
Pour finir la boucle.
Et vous aviez quand même aussi, comme tu disais tout à l'heure, vous aviez pas forcément un programme. Il y avait quand même une date en Colombie, si je ne m'abuse, parce que ton frère se mariait là-bas, c'est ça?
On avait quand même, c'est ça, mon frère se mariait en décembre, donc on savait qu'on avait 6 mois pour remonter jusqu'en Colombie. On avait quand même un peu prévu, grosse maille, le trajet pour être bonne saison au bon moment.
Ouais.
Ok. Pour pas être complètement décalé, notamment en Patagonie, bah, si on est en plein hiver, là-bas, c'est un peu compliqué pour faire de la randonnée. Donc on a quand même vu ça et bah, ça tombait en plus bien pour arriver en Colombie en décembre.
D'accord. C'est pour ça qu'on a commencé le séjour des Caraïbes à Ushuaïa par le Pérou qui est pas du tout aux Caraïbes d'ailleurs, c'est vraiment, mais du coup on est remonté jusqu'aux Caraïbes. On a pu être au rendez-vous et partager ces moments aussi à deux familles avec le mariage de ton frère.
C'est ça, ouais, c'est pas longtemps avant les fêtes de Noël et etc. Donc mes parents nous ont rejoints aussi pour le mariage évidemment, donc ça a été une bonne opportunité pour se retrouver au milieu du voyage, partager aussi avec la famille de Laura qui est sur place et avec des locaux sur une longue période, parce qu'on est resté presque un mois avec eux au total sur la durée du voyage.
Et découvrir la Colombie autrement qu'à travers des séries Netflix.
Exactement, ça n'a rien à voir.
C'est vrai qu'après, on a fait un très gros saut de puce, justement, de la Colombie vers l'Argentine pour pouvoir aller en Patagonie à la bonne saison, enfin, à la bonne saison, entre guillemets, mais à une saison un peu plus favorable pour aller faire des rando.
Ouais.
Donc en janvier, février.
D'accord, ouais.
Voilà.
Donc, ouais, vous avez vraiment, quelque part, vous avez quand même continué à calculer un petit peu, au moins au niveau des saisons, au niveau des...
Il y avait ce truc-là. C'était une forme de spontanéité maîtrisée, voilà.
On reste sur les bases qu'on a acquises.
Voilà, il y a un côté quand même ingénieur qu'on a du mal à...
L'aventure maîtrisée.
Voilà, c'est ça.
Parce que finalement,
ça nous a permis de suivre le climat aussi, c'est ça qui était intéressant, et d'être toujours dans des bonnes périodes pour pouvoir aller faire des randos ou être à l'extérieur et voire même camper, etc.
Et vous avez du coup croisé quand même pas mal de Français du coup au cours de votre séjour, même au moment de la cérémonie, je crois que vous étiez déjà avec des Français. J'ai un peu bossé.
Ouais, tout à fait, bravo.
Et du coup, à chaque fois dans les hostels, finalement, vous croisez beaucoup de... Donc, c'est intéressant aussi de voir des gens qui ont un peu les mêmes optiques que vous, et puis peut-être plus facilement échanger parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue aussi, mais...
C'est quand même l'Amérique du Sud, c'est une zone qui attire énormément, comme on disait, par la facilité de voyage, le prix, etc. Donc, on a été impressionnés par la quantité de Français qu'on a rencontrés, de tout âge. Ça, c'est quelque chose qui nous a surpris aussi, parce que, énormément de jeunes sortis d'études qui voyaient souvent seuls, beaucoup de couples comme nous avec la trentaine, mais on a croisé aussi, des familles avec des enfants, des pré-retraités. On a croisé une dame qui nous a vachement marqué, une Allemande qui est partie vivre, qui avait envie de voyage, qui a elle un mari, 2 enfants, qui eux étaient pas du tout intéressés par le voyage et qui a décidé de quand même partir avec leur accord pendant un an à l'étranger. On a trouvé que c'était assez marquant et finalement il n'y a pas de moment mieux que d'autres pour pouvoir partir. Chaque étape de vie peut être une opportunité pour pouvoir voyager.
On a discuté avec un couple de Français qu'on a rencontré au Chili, et eux en fait ils sont à 3 ans de la retraite et ils ont décidé de pas attendre la retraite et de partir quand même voyager. Donc ils ont fait un peu la même démarche que nous, de laisser la maison, les voitures, tout ça, tous les biens sur place ou vendus, et puis ils sont partis un an. Et ils nous disaient c'est possible en fait, c'est pas plus difficile. Peut-être que par contre, ça rajoute des lignes aux actions à réaliser, quoi. Quand il y a plus de biens et quand il y a des enfants qui sont.
C'est sûr.
Aussi dans la, ouais. dans la boucle, il y a peut-être plus d'actions à faire, mais en fait, voilà, c'est pas plus que ça finalement.
Ouais, parce que vous avez pas d'enfants, vous êtes parti, comme tu dis, vous êtes débarrassé des véhicules. Mmh, hop ça. Là, vous avez vendu. Donc, les biens, vous en avez gardé un petit peu, vous avez laissé chez vos parents.
Stocké chez ma grand-mère.
Ouais.
Mais oui, c'est ça. Finalement, on n'avait pas vraiment de contraintes si on prend. On n'avait pas de prêt, on n'avait pas d'enfants. Ouais. Donc, on avait quelques biens matériels.
Ouais. Qui n'allaient pas vous manquer pendant 14 mois.
Exactement.
Non, ça c'est sûr. Mais du coup, oui, pour les rencontres qu'on a pu faire au fur et à mesure du voyage, c'est vrai que c'était vraiment riche et intéressant d'avoir ces différentes expériences de voyageurs aussi.
Ouais.
Et en fait, la rencontre avec des voyageurs, c'est aussi riche d'apprentissage justement sur l'optimisme, tout ça. C'était beaucoup avec ces personnes-là où quand on pouvait parler d'un projet, tout de suite, il y avait un optimisme dingue. Et c'était toujours des bonnes idées, alors que même des fois, c'était des idées quand même foireuses. Hein, mais ouais, je sais pas, rentrer en bateau, par exemple, refaire la transatlantique retour en n'ayant jamais fait de...
D'accord.
À un moment, on a eu cette idée et tout le monde disait, mais c'est génial. On l'a pas fait, mais c'était compliqué comme idée quand même.
Ouais.
Et justement, à la suite de l'accident de Fanny, on a été plus attentif aux signaux faibles et on a su renoncer à ce projet, par exemple.
Il y a ce truc aussi que ces gens-là qui sont déjà à l'étranger, qui sont déjà comme vous êtes un peu dans le même état d'esprit, enfin ouvert déjà, c'est
exactement ça, c'est le même état d'esprit, la même
voilà, c'est ça que
la même manière de voir les choses
qui vous rejoignent rejoignent à ce niveau.
Ça fait des liens forts d'ailleurs, c'est je pense les gens avec qui on va plus le garder contact. On a rencontré plein de Chiliens, d'Argentins, etc. On aura sûrement du mal à les revoir parce que ils ont pas forcément prévu de revenir en France, on n'a pas forcément prévu de retourner là-bas tout de suite, donc tu gardes un petit lien mais qui sait dans le temps va pas rester fort, alors que les Français qu'on a pu rencontrer là-bas, il y en a certains où on a déjà prévu des week-ends d'ailleurs pour pour arriver pour à se voir, retrouver et puis ça fait du bien aussi parce que ça permet de repartager certains moments avec ces personnes où c'est les seuls qui ont vécu cette chose à ce moment-là, avec les émotions qu'elles vivent à ce moment-là et auxquelles c'est très difficile d'en discuter avec d'autres gens. Du coup ça fait aussi durer un peu durer aussi un peu le voyage en pouvant rediscuter de certaines choses plus tard en gardant ce contact.
Mais et des gens que des locaux un peu que vous avez pu se rencontrer, est-ce que ça vous a pas fait un peu justement la sensation de se dire on est en train de partager des choses qui sont un peu hors du temps et assez fortes, mais en même temps se dire on va les quitter, on va peut-être plus jamais les revoir. Est-ce qu'il y avait pas cette pré-nostalgie déjà de les quitter, comment vous avez appréhendé ça par rapport aux émotions que vous viviez avec eux?
Je pense que moi on était vachement dans l'instant présent à ce moment-là et je pense que je savais déjà que c'était un moment qu'on passait avec eux et que il allait avoir une fin et qu'on allait pas faire d'autres choses ensuite, et du coup je pense pas avoir eu vraiment ce ressenti là
et je pense que en fait il y a différents types de relations, enfin ça on l'a identifié plus tard en revenant, en analysant à posteriori le truc, mais en discutant d'ailleurs avec Pierre qui a su mettre des mots là-dessus, parce que en fait il y a plein de relations qu'on a dans le voyage qui sont informelles par exemple, et c'est peut-être les relations qu'on a le plus avec les locaux justement. Quand on fait un voyage long, nous en tout cas dans notre expérience, on a pu passer longtemps à certains endroits, ce qui fait que on allait toujours voir les mêmes commerçants, donc on se reconnaissait dans les marchés et donc on instaurait une forme de relation, un peu de confiance où ils savaient qu'on allait revenir, nous on les privilégiait et finalement on pouvait échanger avec eux, donc c'était des échanges un peu informels sur la pluie et le beau temps et puis sur des conversations de base, mais en fait c'est quand même une relation riche parce que on met un petit pas dans le quotidien finalement de gens qui vivent ici et sur leur métier et on comprend ça nous aide à découvrir et comprendre un peu leur vie, leur manière de penser, d'échanger. Et puis voilà, à un moment donné, il faut bien aller chez le coiffeur. Donc du coup, le coiffeur, on est coincé pendant quelques minutes avec quelqu'un. Donc il faut parler en espagnol et donc on échange aussi. Et toutes ces relations informelles, en fait, elles sont vraiment intéressantes et on les a beaucoup appréciées, en tout cas, nous, dans notre voyage. Et en fait, c'est complémentaire, quoi, avec des relations qui durent peut-être plus avec certains voyageurs. Mais voilà, les deux ont une valeur et les deux sont vraiment importantes et justifient un super voyage, quoi. Enfin, justifient le fait de voyager et notamment sur une durée assez longue. Et après, on a eu des relations un peu plus privilégiées, on va dire, avec certains locaux dans certaines situations. On parlait tout à l'heure de l'expérience de permaculture qu'on a pu avoir pendant 2 semaines. Là, c'était vraiment un échange chouette. Et on en a eu d'autres. On est parti plusieurs semaines, à plusieurs reprises d'ailleurs, avec un guide avec des guides dans la jungle, par exemple. Donc on a fait ce genre d'expérience dans différents pays. On l'a fait au Pérou, en Colombie et en Bolivie. Et en fait, ces expériences-là, on partait une semaine avec un guide dans un lieu, donc vraiment dans l'Amazonie. Donc on parlait tous les jours avec lui. On avait le temps de pouvoir échanger sur nos points de vue, sur nos croyances, de nous faire le guide nous faisait découvrir beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, ça reste des super souvenirs. On sait que c'est quand même pour le tourisme et que du coup, il n'y a pas une relation qui va durer dans le temps. Oui. Et malgré tout, on s'apporte, je pense, beaucoup.
Des choses à ce moment-là, en tout cas, et encore comme tu disais, sur le moment présent, d'arriver à profiter de ça et à se dire bon, c'est un temps donné, mais.
Ouais, il y a une rencontre que j'ai en tête là sur un des guides qui s'appelle Opsima, qui nous a beaucoup marqué parce qu'en fait, il a su vraiment nous transmettre une forme de, enfin, nous transmettre ses croyances par rapport justement à la jungle, au vivant qu'il y a et à la nature qui est complètement omniprésente dans la jungle. L'homme n'a pas grand chose à y foutre dans la jungle. Globalement, c'est quand même assez impressionnant. L'écosystème est tout organisé et l'homme n'a pas vraiment sa place. Et donc, du coup, pourtant, il y est quand même installé. Il y a des communautés qui y vivent et qui vivent en harmonie avec la nature à cet endroit-là. Et il a su nous transmettre un petit peu, justement, par quelle croyance passe cette possibilité d'harmonie. Et ça vient, en fait, bousculer des visions de vie qu'on peut avoir, nous, dans notre éducation, que nous pouvions avoir, Fanny et moi, sur pas mal de choses, et où, finalement, ces croyances, cette culture-là qu'on a, c'est pas du tout la même sur place. Et peut-être que justement ces formes de croyances sur place permettent d'avoir une harmonie, un équilibre avec la nature et de pouvoir survivre simplement et vivre et même plus que survivre, vivre dans un milieu qui paraît autant hostile à nos yeux, nous, Fanny et moi, quoi.
Justement, c'est une expérience quand même où il faut être assez soudé et assez solide. Tu as dit, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Comment, pour le couple, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou est-ce que évidemment du soutien, mais est-ce que vous trouvez que ça a renforcé votre couple, au contraire, cette expérience?
Bah c'est vrai que c'est un changement de rythme parce qu'on passe d'un coup à être 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7, tout le temps. Du coup, c'est forcément des changements et des réadaptations à faire un peu au début. Après, oui, clairement, ça nous a ressoudés, ça nous a, je pense, permis de continuer à mieux nous connaître dans les réactions, dans les comment est-ce qu'on réagit spontanément dans des moments de stress, comment.
La finalité, c'est que ça nous a soudés, mais on est passé par des moments où c'était difficile, où on a été, où on s'est éloigné. En fait, le fait justement d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'autre, c'est qu'on est avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et donc, ça permet de, comme tu dis, de mieux se connaître, de mieux voir ce qui se passe, de voir des fois des écarts avec le comportement de l'autre par rapport au nôtre. Et après, nous, on a su en parler. On en a parlé beaucoup. Notamment à certains moments du voyage et ça nous a permis de mieux nous comprendre chacun et c'est rigolo, on s'est rendu compte qu'on avait des manières de réagir complètement différentes pour des mêmes situations en fait et le fait d'en parler et de réussir à pas le rendre tabou ça fait que ça a consolidé la relation vraiment parce que maintenant on arrive peut-être un peu mieux à
ça veut pas dire qu'on s'engueule plus hein, mais
non mais on comprend mieux les
choses, on comprend peut-être plus rapidement comment est-ce qu'on fonctionne. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu aussi, moi j'ai eu un peu tout ce qui est un truc de dépendance émotionnelle. On est toujours ensemble, on fait tout ensemble et finalement un peu la question à un moment qui tombe sur est-ce que si un jour on n'est plus ensemble comment ça fonctionne, parce qu'on a toutes les mêmes activités, nos copains qu'on a c'est plutôt des copains communs. Du coup cette sensation d'avoir une difficulté à être dissociable quoi. Ouais. C'est vraiment des questionnements qui sont venus.
Mais c'est une prise de conscience, ouais.
Tu disais tout à l'heure que vous faisiez ce voyage pour vous connaître. Finalement, vous êtes connus aussi l'un l'autre.
C'est ça,
pour
exactement. Vous connaître, se connaître seul, aussi. Se connaître à deux, ouais. Voilà.
Donc, et on a connu, ouais, complètement. Et on a pris conscience, là, à ce moment-là, de l'importance d'être bien chacun individuellement pour être bien dans la relation, en fait.
Ouais.
C'est 1 plus 1 égale 3, enfin, finalement.
Ça. D'accord.
Et 2 plus la relation. Et en fait, ça prenait vraiment tout son sens en étant 24 heures sur 24 ensemble.
Bien sûr.
Le besoin d'avoir une indépendance et puis le fait d'être bien déjà individuellement pour pouvoir être disponible et bien dans la relation, quoi. Ça a renforcé ça. Mais c'est un bel exercice.
Ouais, c'est vrai. Ah, non, on a rencontré des couples justement qui décidaient sur certaines périodes de se séparer un temps et ils se donnaient rendez-vous à un endroit, mais pour avoir un moment chacun. Ça pouvait être des périodes plus ou moins longues, mais ouais, c'est des choses qui se font.
Faut oser le faire aussi. Ces fonctionnements qui se font. Du coup, effectivement, on parle du coup un petit peu de ce que vous avez retenu et ce que vous avez. Finalement, alors on arrive à ça. Tu parlais tout à l'heure, vous avez essayé de noter un petit peu ces leçons. On en est où de ces leçons-là et qu'est-ce que vous avez appris et ce que vous recommandez ou pas aussi par rapport à ces leçons-là?
On a parlé de l'optimisme. On a parlé aussi de l'importance de savoir savoir être à l'écoute des signaux forts et des signaux faibles dans l'optimisme pour être capable de renoncer au bon moment. En fait, tous ces enseignements, c'est génial. On en discutait en préparant un peu le podcast. On se disait, en fait, le voyage, c'est un laboratoire. Il y a tellement de situations imprévues et de problématiques à résoudre que du coup, on peut déjà prendre conscience de comment on réagit. Et après, derrière, on peut s'amuser à essayer de réagir autrement. Quand ça nous dérange, bien sûr.
Ouais.
Et en fait, justement, à la suite de la cheville qui s'est, de l'incident de la cheville, on s'est amusé à essayer de tester d'autres choses et à essayer de renoncer plutôt que de subir le renoncement. Et c'était assez dingue parce qu'on avait, on a un exemple qui nous a souri et qu'on avait envie de partager. C'est bien plus tard dans le voyage, on est donc en Argentine, en Patagonie. On est passé par une ville qui s'appelait El Chalten, qui est un petit peu la capitale de la montagne là-bas, où il y a énormément de randonnées à faire. Et il y a une randonnée de 4 jours qui nous attire particulièrement, qui s'appelle le Trek del Huemul. C'est un cervidé, le Huemul, et qui passe par la 3e plus grande calotte glaciaire du monde, après l'Antarctique et le Groenland. Ça donne envie, quoi. Donc, on était plein d'optimisme, on s'est dit, on y va, et c'est super, quoi. On s'est retrouvé à El Chalten à attendre un peu, à guetter les signaux, les feux verts, les feux rouges. Et en fait, on s'est retrouvé bloqué pendant une semaine avec une météo catastrophique, des rafales de vent, de la pluie, terrible. Donc, on était dans un hostel confortable, ça c'était chouette, avec un feu de cheminée. Et donc, on était devant ce feu de cheminée, mais bon, on était quand même pas hyper enthousiaste, quoi. Et on essayait de rester, d'attendre le jour suivant pour voir si on pouvait réaliser ce projet. Au bout d'un moment, on est resté une semaine coincé, on déprimait un peu, on s'est dit, non, mais en fait, il faut renoncer, là. Mmh. C'est pas le bon moment, les planètes s'alignent pas, tant pis. On n'y va pas. Allons plus loin. Donc, en fait, on est allé à Ushuaia, à ce moment-là. C'était un peu rigolo, parce que le jour où on a décidé vraiment de partir, il s'est mis à faire super beau. On a essayé de partir en stop de El Chalten, on était sur un parking, on voyait des randonneurs qui nous passaient devant, à un moment donné on leur demande vous allez où? Bah, on va faire le trek d'El Huemul. On dit putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on a pris vraiment la bonne décision? Et on s'est dit non, mais attends, là c'est un laboratoire, restons sur notre décision, il faut savoir renoncer. On est arrivé à Ushuaia, super fenêtre météo, on a pu faire des randonnées exceptionnelles, on a adoré le lieu, la montagne là-bas est vraiment très belle. Et on est juste, on a pu faire toutes les randonnées qu'on voulait, et juste après, une fois qu'on a eu terminé ce qu'on voulait faire, il s'est remis à faire mauvais à Ushuaia. Et à ce moment-là, deux amis, qui en fait étaient dans la même école d'ingénieurs que moi, et avec lesquels on avait pu déjà se rencontrer au Pérou, eux, ils traversent tout le continent en vélo. On a déjà partagé un trek avec eux, et on prend des nouvelles. Eux, ils sont en vélo, ils descendent, et en fait, il se trouve qu'ils arrivaient à El Chalten. À ce moment-là. Donc, ils nous disent, on arrive dans 2 jours. On se dit, on va regarder la météo pour voir à quelle sauce ils vont être mangés. Et là, on voit 4 jours de grand soleil. Un truc de fou, quoi. Pile poil le créneau pour faire le trek. Donc, nous, on n'était pas du tout à cet endroit. On était à Ushuaia. On se dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? si on leur proposait de remonter et de faire le trek avec eux. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et c'était assez improbable parce qu'on avait pile poil le bon créneau pour remonter en bus et arriver à temps. Ils venaient d'arriver. Enfin voilà, les planètes s'alignaient d'un coup. Et finalement, le fait de renoncer,
ça nous a permis d'avoir
des conditions exceptionnelles. Et on a fait le trek de Huemul qui reste aujourd'hui, je pense, le plus beau trek qu'on ait jamais fait, quoi. On a vu cette calotte glaciaire qui est gigantesque. On a l'habitude en France de voir des glaciers qui tombent, qui sont accrochés un peu à des falaises.
Ouais.
Là-bas, c'est une vallée plate qui est en fait recouverte de glace à des kilomètres. Juste la largeur qu'on pouvait observer, ça faisait rien que pour aller jusqu'à la montagne d'après, c'était 30 kilomètres de profondeur. Okay. Et en fait, ça s'arrêtait pas là, il y avait une montagne qui nous cachait la vue et ça continue. Enfin bref, moi, l'émotion m'emporte en parlant de ça. C'était vraiment très très beau. Donc le fait d'apprendre à renoncer, finalement, nous a souri derrière, quoi.
Ouais.
Donc un bel enseignement justement qu'on a pu avoir. Qu'est-ce qui reste d'autre de qu'on n'a pas pu aborder encore là sur les enseignements qu'on note aujourd'hui?
Bah, dans tous les cas, c'est des enseignements. On en a pris conscience en tout cas. Est-ce qu'on arrivera à les mettre en pratique tout le temps? Ouais. C'est clairement pas sûr parce que c'est un travail de longue haleine. Donc c'est pas forcément simple. Ouais. Mais on en a conscience. Donc même quand on dérive, on s'en rend beaucoup plus rapidement compte et on est capable de venir modifier ça un peu plus rapidement.
Vous êtes plus conscient de ce que vous êtes, de comment vous allez réagir, donc vous écoutez plus et donc vous réagissez, vous ajustez en fonction plus facilement. Et justement, c'est pas évidemment l'environnement joue beaucoup. L'environnement là-bas est peut-être un peu plus simple pour appliquer justement des enseignements.
C'est propice, par l'entourage qui peut y avoir là-bas.
Le côté hyper optimiste, etc. Ouais. Quand on arrive, on revient le retour. Alors. Est-ce que justement, tu dis que c'est difficile de les appliquer toutes ces leçons que comment vous l'avez ressenti ce retour là?
Ouais, bah le retour, tu rentres au début, t'as un peu une phase un peu d'euphorie quand même parce que tu revois plein de gens que t'as pas vu depuis très longtemps et que tu repartages plein de bons moments. Mais ouais, rapidement, on se rend compte, c'est à ce moment-là en fait qu'on se rend compte des changements. Je pense sur certaines choses qui avant ça nous aurait même pas interpellé et puis là on tique un peu sur ah ouais d'accord ah oui c'est vrai. Donc c'est pas sur des choses, je pense on réagissait clairement de cette manière-là avant. Là on va avoir des personnes on va faire ça et d'avoir justement en face ah oui mais t'as pensé à ça, ah mais il y a ça et puis est-ce qu'il faut faire comme ça, ah ouais mais non mais attends il y a ça, t'es sûr que tu veux? Bah ouais, sur le moment d'un coup on arrive avec toute notre énergie là et il y a tout qui se dégonfle d'un coup. Donc c'est aussi l'acceptation de se rendre compte que tout le monde n'a pas évolué sur cet aspect-là, que beaucoup de gens ont leurs habitudes, leur manière de faire et que c'est normal à leur échelle qu'il y ait passé ce suivi là-dessus.
Oui, c'est vraiment en mesurant un peu les écarts que finalement c'est super positif parce que ça nous fait voir comment on a changé aussi.
L'évolution vous êtes.
Et oui, on parlait de l'optimisme, puis j'ai un truc qui me vient aussi, c'est par rapport à l'écoute. En fait, on s'est rendu compte en voyageant que déjà, on est très habitué, quand on a besoin d'une information, à aller la chercher sur un téléphone ou sur Internet. Donc, on n'est pas dans l'écoute. Enfin, on a une source fiable, on va la consulter, on a l'info, c'est bon. Et durant notre voyage, finalement, on a dû réapprendre à aller chercher l'information auprès des gens. Donc, à aller demander et à écouter la réponse.
C'était pas si facile parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on grandit un peu en nous apprenant de se méfier quand même un peu de l'environnement, des gens qu'il peut y avoir autour. Donc, on est vachement arrivé avec cette méfiance-là, à se dire attention, en plus on nous parle d'insécurité, etc. Et on s'est rendu compte quand même au fur et à mesure que finalement au début on demandait aux gens mais on les écoutait pas trop et on avait besoin de demander à 5 personnes pour être sûr qu'on nous dit, qu'on essayait pas de nous avoir quoi.
Ouais. Au bout de la 5e fois on se disait en fait le premier nous l'avait déjà dit quoi, qu'on se sentait un peu bête. Donc du coup le laboratoire la prochaine fois on va pouvoir faire différemment. Donc on s'est un peu musclé le cerveau sur ça. Ce qui veut pas dire qu'on a développé une capacité d'écoute exceptionnelle et que maintenant dès que quelqu'un dit quelque chose on l'entend et on le reçoit de suite, mais il y a une forme de sensibilité à ça et ça s'est fait un petit peu naturellement, enfin plus ou moins parce qu'on se corrigeait quand même au fur et à mesure du voyage, on en avait conscience. Mais c'est vrai qu'au retour on a mesuré pas mal là un écart parce que on s'est rendu compte à quel point certaines discussions dans notre entourage et dans notre quotidien étaient un peu hermétiques où chacun donne son point de vue et en fait il y a vraiment pas d'écoute et
en fait on se rend compte que ça les gens ont assez peu d'énergie pour justement pour avoir cette écoute là parce que ils ont plein de problématiques dans tous les sens et du coup ils restent un peu bloqués sur ça et ils ont pas cette liberté de je sais pas de cerveau qu'on a pu avoir où on et le temps de prendre le temps d'écouter
ce quota de cerveau accorder aux autres parce qu'ils sont malheureusement par la vie centrés sur eux-mêmes
et je pense qu'on pourrait très facilement retomber dedans mais en fait ce qui est intéressant c'est ce qu'on a appris en fait dans ce voyage, c'est de vivre ça et de vivre après l'écart au retour nous fait prendre conscience que c'est un point important pour nous de garder une forme d'énergie disponible pour être ouvert à l'autre. C'est quelque chose qui nous fait envie et qui nous motive. Donc dans les objectifs de vie, ce sera un point qui sera quand même essentiel d'arriver à garder cette disponibilité.
Donc maintenant, on est de retour. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est quoi la grande question? C'est quoi le futur? Est-ce que vous savez déjà?
On a des idées.
Vous avez des idées.
Plus ou moins claires.
Comment? Est-ce que vous êtes tapé dans la main?
Oh bah pour ouais. Enfin, on a un projet qui est venu assez naturellement pour prolonger la liberté et l'envie d'aventure. C'est que on a tout de suite eu l'envie d'acheter un van et de l'aménager pour pouvoir continuer de pouvoir explorer, mais proche de chez nous, on va dire.
D'accord.
Donc ça, c'était facile, on va dire. On s'est tapé rapidement dans la main. Après, déjà, le retour, nous, on a décidé de prendre notre temps parce que ça nous avait réussi jusque-là. Et là, en ce moment, en fait, on prend le temps de recréer du lien avec tous nos amis et nos familles. Et donc, on est en vadrouille. En plus, on a la chance d'avoir Pierre, le copain qui nous avait justement encouragé à partir, qui un jour nous appelle, on était encore au milieu du voyage, et qui nous dit, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Ok, c'est quoi la mauvaise? Donc, il a perdu son permis jusqu'au mois de décembre, là, 2023.
D'accord.
C'est pas cool. Et la bonne? Bah, en fait, du coup, il a un van aménagé. Et donc, en fait, il nous a proposé de nous le prêter jusqu'à décembre. Donc, d'accord. Merci Pierre, quoi.
Donc,
on a gagné. Enfin, là, le retour était assez facilité dans ce sens-là. Et ensuite, on a un objectif qu'on a toujours eu on en parlait déjà avant de partir. C'était d'un jour habiter, vivre dans les Alpes.
Ok.
La montagne nous attire encore.
C'est ça. Nous reste à trouver où exactement. Pour l'instant, on n'a pas.
Okay,
on commence à mettre des croix à certains endroits en disant là plutôt oui, là plutôt non, mais ça reste encore assez flou de ce point de vue-là.
Et après, il y a la question du métier.
C'est ça, professionnellement. Pour ma part, j'ai pas une révélation en me disant je sais que c'est ça que je veux faire.
Ouais.
J'espérais un peu, mais c'est pas ce qui s'est passé. Du coup, je pense que je définis plus un cadre, mais sans savoir exactement précisément. Donc moi, pour la suite, là, j'ai prévu déjà de suivre un bilan de compétences avec l'APEC notamment qui peuvent nous suivre pour m'accompagner un peu là-dedans et m'aider à m'orienter un peu dans ces choix-là.
C'est bien, faites-vous accompagner quand vous ne savez pas vraiment.
On a la chance. C'est aussi une des observations qu'on fait en voyage, hein, c'est qu'au retour, on a la chance d'avoir quand même un système social qui est vachement, qui marche bien en France.
Ouais,
et on a vraiment beaucoup d'interlocuteurs vers lesquels se tourner pour se réorienter, beaucoup d'aide. Ça, c'est vraiment une chance incroyable. Et oui, dans le cadre un petit peu du métier, je pense qu'on a envie quand même de reprendre une vie sédentaire. Ouais. Et dans les Alpes. Et je pense que justement nos observations du voyage, notamment sur l'environnement, nous poussent à nous investir là-dedans, dans la préservation de l'environnement.
Okay.
Donc ça
fait
partie.
Oui, puis il peut y avoir cette idée de peut-être quelque chose qu'on a évolué. Ça va être avant, on avait un peu l'idée d'acheter une grande maison avec avec je sais pas combien de chambres, etc. Là, peut-être plus l'idée de se recentrer sur un habitat plus petit. Pourquoi pas, on disait avoir un ou deux habitats légers à louer à côté ou qui permettent quand même de pouvoir accueillir la famille, les amis, d'avoir cet espace-là en cas de besoin. Mais voilà, c'est de la réflexion, mais pourquoi pas.
Après 14 mois avec un sac de 12 kilos, on se dit que finalement, une grande maison, tout ça, bon, c'est pas forcément indispensable.
À leur place, ouais.
C'est ça.
Et si là, pour terminer, si là, vous deviez vous voir au début de cette aventure, au moment où vous êtes tapé la main, et vous deviez vous donner un conseil à chacun, chacun l'un pour l'autre, vous diriez quoi? Conseil, un avis,
un conseil
phrase,
par rapport au voyage,
par rapport à tout.
Ouais, moi je dirais juste profite, profites-en,
fais-toi confiance.
Ouais.
Il y a une histoire de confiance peut-être que j'aimerais donner, qui finalement, ça revient aux différentes notions qu'on disait avec l'optimisme et avec le fait de gâter les signaux forts et les signaux faibles. En fait, il faut savoir s'écouter et se faire confiance, un peu dans toute situation. Une idée est toujours bonne. Après, d'ailleurs, une idée est toujours neutre. Ouais. C'est ce qu'on en fait mais disons que dans les deux cas, s'il faut se projeter, c'est intéressant de se projeter vers le positif parce que ça donne une énergie positive. Mais c'est important de rester à l'écoute pour pouvoir guetter des éventuels signaux faibles et être capable de renoncer si besoin. Et renoncer, en fait, c'est toujours renoncer pendant un temps. Mais du coup, ça découvre toujours des opportunités derrière. Qui sont des fois encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc vraiment, je pense que ce serait simplement faire confiance, se faire confiance.
Ouais. Bah c'est. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose et dire quelque chose que vous auriez peut-être omis ou une question? Est-ce que s'il y a une question que je vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose?
Moi, ça me paraît bien complet.
Merci,
on a déjà pas mal parlé.
Eh ben, très bien. Merci à vous d'avoir participé. C'est que c'était pas facile pour tous les deux de parler. C'est pas un exercice.
Des exercices qu'on a l'habitude de faire.
Toujours évident. Donc, merci d'avoir partagé votre histoire.
Bah, merci à toi de nous avoir invité à faire ça et nous avoir permis de découvrir.
J'ai envie de dire merci déjà de nous faire découvrir cet exercice de parler, d'être enregistré. Et voilà, de derrière s'écouter, on l'a pas encore fait, on va voir ce que ça donne. Ça va sûrement être un bel exercice. Et merci de nous avoir permis à travers cet exercice de justement réfléchir aussi sur tout ce qu'on a vécu et de remettre un petit peu nos idées au clair. On a parmi nos projets, on l'a pas cité, mais l'envie d'écrire pour pouvoir partager justement ce qu'on a vécu et notamment les aspects psychologiques, les développements personnels à travers cette expérience. Donc c'est vrai que le podcast nous aide en fait à remettre les idées en place
à construire un peu ça.
Peut-être que une planète s'est alignée.
Peut-être que notre rencontre n'est pas
anodine.
Je vous remercie encore. Merci à tous les auditeurs d'être encore là, de nous avoir encore écoutés. Et on se retrouve bientôt. Le podcast est de retour, heureusement ou malheureusement pour certains. Vous nous le direz. En tout cas, moi c'était un plaisir. Et puis merci. Puis nous on va continuer la soirée. On va pas vous gâcher. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Merci.
À bientôt.
Don't let your dreams be dreams.